Deuxième partie. Au retour, Frédéric, cette fois, reconduisit Bernerette chez elle. Il la trouva si pauvrement logée qu'il comprit aisément par quel motif elle avait d'abord refusé de se laisser amener. Elle demeurait dans une maison garnie dont l'entrée était une allée obscure. Elle n'avait que deux petites chambres à peine meublées. Frédéric essaya de lui faire quelques questions sur la position fâcheuse où elle semblait réduite, mais elle n'y répondit qu'à peine. Quelques jours après, il venait la voir et il entrait dans l'allée lorsqu'un bruit étrange se fit entendre au haut de l'escalier. Des femmes criaient, on appelait au secours, on menaçait, on parlait d'envoyer chercher la garde. Au milieu de ces voix confuses, dominait celle d'un jeune homme que Frédéric aperçut bientôt. Il était pâle, couvert de vêtements déchirés, ivre à la fois de vin et de colère. « Tu me le paieras, Louise » cria-t-il en frappant sur la rampe. « Tu me le paieras, je te retrouverai, et je saurai te faire obéir ou t'arracher d'ici. Oh, je me souviens bien de ces menaces et de vos criailleries de femme. Comptez que d'un peu, vous me reverrez. » Il descendit, en parlant ainsi, et sortit furieux de la maison. Frédéric hésitait à monter lorsqu'il vit Bernerette sur le palier. Elle lui expliqua la cause de cette scène. L'homme qui venait de s'en aller était son frère. « Vous avez entendu ce triste nom de Louise ?» dit-elle en pleurant. « Et vous savez qu'il m'appartient pour mon malheur. Oui, mon frère a été ce soir au cabaret, et quand il en sort, voilà comment il me traite, sous le prétexte que je refuse de lui donner de l'argent pour y retourner. » Et au milieu de son désordre, de ses larmes, elle apprit à Frédéric ce qu'elle avait toujours tenté de lui cacher. Ses parents étaient menuisiers, fort pauvres, et après l'avoir horriblement maltraité durant son enfance, il l'avait vendue, dès l'âge de 16 ans, à un homme qui n'était plus jeune. Cet homme, riche et généreux, lui avait fait donner quelque éducation. Mais bientôt il était mort et restait sans ressources. Elle s'était engagée alors dans une troupe de comédiens de province. Son frère l'avait suivi de ville en ville dans ce nouvel état, la forçant à lui abandonner ce qu'elle gagnait et l'accablant de coups et d'injures lorsqu'elle ne pouvait satisfaire à ses demandes. Ayant enfin atteint l'âge de 18 ans, elle avait trouvé moyen de se faire émanciper. Mais la protection même de la loi ne pouvait la garantir des visites de ce frère odieux qui l'épouvantait par des actes de violence et la déshonorait par sa conduite. Elle fut en somme à peu près le récit que la douleur arracha à Bernerette, récit dont Frédéric ne pouvait mettre la vérité en doute d'après la manière dont il lui était révélé. Quand il n'aurait pas eu d'amour pour la pauvre fille, il se serait senti touché de pitié. Il s'informa de la demeure du frère. Quelques pièces d'or et un langage ferme accommodèrent les choses. La portière eut ordre de répondre que Bernerette avait changé de quartier si le jeune homme se présentait de nouveau. Mais c'était faire bien peu que d'assurer ainsi la tranquillité d'une femme qui manquait de tout. Au lieu de payer ses propres dettes, Frédéric paya celle de Bernerette. Elle essaya en vain de l'en dissuader. Il a voulu réfléchir ni à l'imprudence qu'il commettait, ni aux suites qu'elle pouvait avoir. Il se laissa entraîner par son cœur et se jura, quoi qu'il pût arriver, de ne jamais se repentir de ce qu'il venait de faire. Il fut bientôt pourtant forcé de s'en repentir, car pour satisfaire aux engagements qu'il avait pris, il lui fallut en contracter de nouveaux, plus difficiles et plus onéreux que les premiers. Il n'avait pas reçu de la nature ce caractère insouciant qui, en pareille circonstance, ôte du moins la crainte du mal à venir. Tout au contraire des qualités qu'il avait perdues, la prévoyance lui restait seule. Il serait devenu sobre et taciturne si l'on pouvait l'être à son âge. Ses amis remarquèrent ce changement. Il n'en voulut pas dire la cause. Pour tromper les autres sur son compte, il dissimula avec lui-même, et par faiblesse ou par nécessité, laissa faire la destinée. Il ne changea cependant pas de langage auprès de Bernarette. Il lui parlait toujours de son prochain départ, mais tout en parlant, il ne partait pas, et il allait chez elle tous les jours. Quand il eut l'habitude de l'escalier, il ne trouva plus l'allée si obscure. Les deux chambrettes, qui lui avaient semblé d'abord si tristes, lui parurent gaies. Le soleil y donnait le matin, et leurs petites dimensions les rendaient plus chaudes. On y trouva la place d'un piano de louage. Il y avait dans le voisinage un bon restaurant d'où l'on faisait apporter à dîner. Bernerette avait un talent que les femmes seules possèdent quelquefois, celui d'être à la fois étourdie et économe. Mais elle y joignait un mérite bien plus rare encore, celui d'être contente de tout, de n'avoir pour toute opinion l'envie de faire plaisir aux autres. Il faut dire aussi ses défauts. Sans être paresseuse, elle vivait dans une oisiveté inconcevable. Après s'être acquittée avec une prestesse surprenante des soins de son petit ménage, elle passait la journée entière les bras croisés sur son canapé. Elle parlait de coudre et de broder, comme Frédéric parlait de partir, c'est-à-dire qu'elle n'en faisait rien. Malheureusement, bien des femmes sont ainsi, surtout dans une certaine classe, qui aurait précisément besoin d'occupation plus que tout autre. Il y a à Paris telle fille née sans pain qui n'a jamais tenu une aiguille et qui se laisserait mourir de faim en se frottant les mains de pâtes d'amande. Quand les plaisirs du carnaval commencèrent, Frédéric, qui courait les bals, arrivait à toute heure chez Bernerette, tantôt le matin au point du jour, tantôt au milieu de la nuit. Quelquefois, en sonnant à la porte, il se demandait malgré lui s'il allait la trouver seule. Et si un rival l'avait supplanté, aurait-il le droit de se plaindre? Non, sans doute, puisque de son propre aveu, il refusait de s'arroger ce droit. Le dirais-je, ce qu'il craignait. Il le souhaitait presque en même temps. Il aurait eu alors le courage de partir, et l'infidélité de sa maîtresse l'aurait forcé de se séparer d'elle. Mais Bernerette était toujours seule. Assise au coin du feu pendant le jour, elle peignait ses longs cheveux qui lui tombaient sur les épaules. Et s'il était nuit, quand Frédéric sonnait, elle accourait à demi nue, les yeux fermés et le rire sur les lèvres. Elle se jetait à son cou, encore endormie, rallumait le feu, tirait de l'armoire de quoi souper, toujours alerte et prévenante, ne demandant jamais d'où venait son amant. Qui aurait pu résister à une vie si douce, à un amour si rare et si facile? Quels que fussent les soucis de la journée, Frédéric s'endormait heureux. Et pouvait-il s'éveiller triste lorsqu'il voyait sa joyeuse amie aller et venir par la chambre, préparant le bain et le déjeuner? S'il est vrai que de rares entrevues et des obstacles sans cesse renaissants rendent les passions plus vivaces et prennent au plaisir l'intérêt de la curiosité, il faut avouer aussi qu'il y a un charme étrange, plus doux, plus dangereux peut-être, dans l'habitude de vivre avec ce qu'on aime. Cette habitude, dit-on, amène la satiété. C'est possible, mais elle donne la confiance, l'oubli de soi-même. Et lorsque l'amour résiste, il est à l'abri de toute crainte. Les amants qui ne se voient que de longs intervalles ne sont jamais sûrs de s'entendre. Ils se préparent à être heureux, ils veulent se convaincre mutuellement qu'ils le sont. Et ils cherchent ce qui est introuvable, c'est-à-dire des mots pour exprimer ce qu'ils sentent. Ceux qui vivent ensemble n'ont besoin de rien exprimer. Ils sentent en même temps, ils échangent des regards, ils se serrent la main en marchant. Ils connaissent seuls une jouissance délicieuse, la douce langueur des lendemains. Ils se reposent des transports de l'amour dans l'abandon de l'amitié. J'ai quelquefois pensé à ces liens charmants en voyant deux cygnes sur une eau limpide se laisser emporter au courant. Si un mouvement de générosité avait entraîné d'abord Frédéric, ce fut l'attrait de cette vie nouvelle pour lui qui le captiva. Malheureusement, pour l'auteur de ce conte, il n'y a qu'une plume comme celle de Bernardin de Saint-Pierre qui puisse donner de l'intérêt aux détails familiers d'un amour tranquille. Encore cet habile écrivain avait-il, pour embellir ses récits naïfs, les nuits ardentes de l'île de France et les palmiers dont l'ombre frissonnait sur les bras nus de Virginie. C'est en présence de la plus riche nature qu'il nous peint ses héros. Dirais-je que les miens allaient tous les matins au tir du pistolet de Tivoli, de là chez leur ami Gérard, de là quelquefois dîner chez Véry et ensuite au spectacle. Dirais-je que lorsqu'ils étaient là, ils jouaient aux dames au coin du feu. Qui voudrait lire des détails si vulgaires? Et à quoi bon lorsqu'un mot suffit? Ils s'aimaient, ils vivaient ensemble. Cela dura 3 mois à peu près. Au bout de ce temps, Frédéric se trouva dans une position si fâcheuse qu'il annonça à son amie la nécessité où il était de se séparer d'elle. Elle s'y attendait depuis longtemps et ne fit aucun effort pour le retenir. Elle savait qu'il avait fait pour elle tous les sacrifices possibles. Elle ne pouvait donc que se résigner et lui cacher le chagrin qu'elle éprouvait. Ils dînèrent ensemble encore une fois. Frédéric glissa en sortant dans le manchon de Bernerette un petit papier qui renfermait tout ce qui lui restait. Elle le reconduisit chez lui et garda le silence pendant la route. Quand le fiacre s'arrêta, elle baisa la main de son amant en répandant quelques larmes, et ils se séparèrent. Cependant, Frédéric n'avait ni l'intention ni la possibilité de partir. D'une part, les obligations qu'il avait contractées, d'une autre, son stage le retenait à Paris. Il travailla avec ardeur pour chasser l'ennui qui le saisissait. Il cessa d'aller chez Gérard, s'enferma pendant 1 mois et ne sortit plus que pour se rendre au palais. Mais la solitude où il se trouvait tout à coup, après tant de dissipation, le plongea dans une mélancolie profonde. Il passait quelquefois des journées entières dans sa chambre à se promener de long en large, sans ouvrir un livre et ne sachant que faire. Le carnaval venait de finir. Aux neiges de février succédaient les pluies glaciales de mars. N'étant distrait ni par le plaisir ni par la société de ses amis, Frédéric se livra avec amertume à l'influence de ce triste moment de l'année qu'on nomme avec raison une saison morte. Gérard vint le voir et lui demanda le motif d'une réclusion si subite. Il n'en fit point mystère, mais il refusa les offres de service de son ami. « Il est temps, lui dit-il, de rompre avec des habitudes qui ne peuvent que me conduire à ma perte. » Il vaut mieux supporter quelque ennui que de s'exposer à des malheurs réels. Il ne dissimula point le chagrin qu'il ressentait d'être séparé de Bernerette, Et Gérard ne put que le plaindre et le féliciter en même temps de la détermination qu'il avait prise. À la mi-carême, il alla au bal de l'opéra. Il y trouva peu de monde. Ce dernier adieu au plaisir n'avait pas même la douceur d'un souvenir. L'orchestre, plus nombreux que le public, jouait dans le désert les contredanses de l'hiver. Quelques masques en erraient dans le foyer, et à leur tournure et à leur langage, on s'apercevait que les femmes de bonne compagnie ne viennent plus à ces fêtes oubliées. Frédéric allait se retirer lorsqu'un domino s'assit près de lui. Il reconnut Bernerette et elle lui dit qu'elle n'était venue que dans l'espoir de le rencontrer. Il lui demanda ce qu'elle avait fait depuis qu'il ne l'avait vue. Elle lui répondit qu'elle avait l'espoir de rentrer au théâtre. Elle apprenait un rôle pour débuter. Frédéric fut tenté de l'emmener souper, mais il pensa à la facilité avec laquelle il s'était laissé entraîner à son retour de Besançon par une occasion pareille. Non, il lui serra la main et sortit seul de la salle. On a dit que le chagrin vaut mieux que l'ennui. C'est un triste mot, malheureusement vrai. Une âme bien née trouve contre le chagrin, quel qu'il soit, de l'énergie et du courage. Une grande douleur est souvent un grand bien. L'ennui, au contraire, ronge et détruit l'homme. L'esprit s'engourdit, le corps reste immobile, et la pensée flotte au hasard. N'avoir plus de raison de vivre est un état pire que la mort. Quand la prudence, l'intérêt, la raison s'opposent à une passion, il est facile au premier venu de blâmer, justement, celui que cette passion entraîne. Les arguments abondent sur ces sortes de sujets. Et, bon gré mal gré, il faut qu'on s'y rende. Mais quand le sacrifice est fait, quand la raison et la prudence sont satisfaites, quel philosophe ou quel sophiste n'est au bout de ses arguments? Et que répondre à l'homme qui vous dit « Oh, je suis vos conseils, mais j'ai tout perdu. J'ai agi sagement, mais je souffre. » Telle était la situation de Frédéric. Bernerette lui écrivit deux fois. Dans sa première lettre, elle disait que la vie lui était devenue insupportable. Elle le suppliait de venir la voir de temps en temps et de ne pas l'abandonner entièrement. Il se défiait trop de lui-même pour se rendre à cette demande. La seconde lettre vint quelque temps après. « J'ai revu mes parents, disait Bernerette, et ils commencent à me traiter plus doucement. Un de mes oncles est mort et nous a laissé quelque argent. Je me fais faire pour mon début des costumes qui vous plairont et que je voudrais vous montrer. Entrez donc un instant chez moi si vous passez devant ma porte. » Frédéric, cette fois, se laissa persuader. Il fit une visite à son ami, mais rien de ce qu'elle lui avait annoncé n'était vrai. Elle n'avait voulu que le revoir. Il fut touché de cette persévérance, mais il n'en sentit que plus tristement la nécessité d'y résister. Aux premières paroles qu'il prononça pour revenir sur ce sujet, Bernerette lui ferma la bouche. « Je le sais, dit-elle, allez, embrasse-moi et va-t'en. » Gérard partait pour la campagne. Il y emmena Frédéric. Les premiers beaux jours, l'exercice du cheval rendirent à celui-ci un peu de gaieté. Gérard en avait fait autant que lui. Il avait, disait-il, renvoyé sa maîtresse. Il voulait vivre en liberté. Les deux jeunes gens couraient les bois ensemble et faisaient la cour à une jolie fermière d'un bourg voisin. Mais bientôt arrivèrent des invités de Paris. La promenade fut quittée pour le jeu. Les dîners devinrent longs et bruyants. Frédéric ne put supporter cette vie qui l'avait ébloui naguère et il revint à sa solitude. Il reçut une lettre de Besançon. Son père lui annonçait que Mademoiselle Darcy venait à Paris avec sa famille. Elle arriva, en effet, dans le courant de la semaine. Frédéric, bien qu'à contre-cœur, se présenta chez elle. Il la trouva telle qu'il l'avait laissée, fidèle à son amour secret, et prête à se servir de cette fidélité comme d'un moyen de coquetterie. Elle avoua toutefois qu'elle avait regretté quelques paroles un peu trop dures prononcées durant le dernier entretien à Besançon. Elle pria Frédéric de lui pardonner si elle avait paru douter de sa discrétion, et elle ajouta que, ne voulant pas se marier, elle lui offrait de nouveau son amitié, mais à tout jamais cette fois. Quand on n'est ni gai ni heureux, de telles offres sont toujours bienvenues. Le jeune homme la remercia donc et trouva quelque charme à passer de temps en temps ses soirées auprès d'elle. Un certain besoin d'émotion pousse quelquefois les gens blasés à la recherche de l'extraordinaire. Il peut sembler surprenant qu'une femme aussi jeune que l'était Mademoiselle Darcy eut ce bizarre et dangereux caractère. Il est cependant vrai qu'elle était ainsi. Il ne lui fut pas difficile d'obtenir la confiance de Frédéric et de lui faire raconter ses amours. Elle aurait peut-être pu le consoler en se montrant seulement coquette auprès de lui. Elle l'eût du moins distrait de ses peines. Mais il lui plut de faire le contraire. Au lieu de le blâmer de ses désordres, elle lui dit que l'amour excusait tout et que ses folies lui faisaient honneur. Au lieu de le confirmer dans sa résolution, elle lui répéta qu'elle ne concevait pas qu'il l'eût prise. « Si j'étais homme, disait-elle, et si j'avais autant de liberté que vous, rien au monde ne pourrait me séparer de la femme que j'aimerais. » Je m'exposerais de bon gré à tous les malheurs, à la misère, s'il le fallait, plutôt que de renoncer à ma maîtresse. » Un pareil langage était bien étrange dans la bouche d'une jeune personne qui ne connaissait de ce monde que l'intérieur de sa famille. Mais, par cette raison même, ce langage était plus frappant. Mademoiselle Darcy avait deux motifs pour jouer ce rôle qui d'ailleurs lui plaisait. D'une part, elle voulait faire preuve d'un grand cœur et se donner pour romanesque. D'un autre côté, elle témoignait par là que, loin de trouver mauvais que Frédéric l'eût oublié, elle approuvait sa passion. Le pauvre garçon, pour la seconde fois, fut la dupe de ce manège féminin et se laissa persuader par un enfant de 17 ans. « Vous avez raison, lui répondait-il. Après tout, la vie est si courte et le bonheur est si rare ici-bas qu'on est bien insensé de réfléchir et de s'attirer des chagrins volontaires lorsqu'il y en a tant d'inévitables. » Mademoiselle Darcy changeait alors de thème. « Votre Bernerette vous aime-t-elle » demandait-elle d'un air de mépris. « Ne me disiez-vous pas que c'est une grisette ? Et quelle compte peut-on faire de ces sortes de femmes ? Serait-elle digne de quelque sacrifice ? En sentirait-elle le prix ? « Oh, n'en sais rien !» répliquait Frédéric. « Je n'ai pas moi-même un grand amour pour elle !» ajoutait-il d'un ton léger. « Je n'ai jamais songé auprès d'elle qu'à passer le temps agréablement. Je m'ennuie maintenant, voilà tout le mal. »« Fi donc !» s'écriait Mademoiselle Darcy, « mais qu'est-ce que c'est qu'une passion pareille ?» Lancée sur ce sujet, la jeune personne s'exaltait. Elle en parlait comme si ce fût agi d'elle-même. De son active imagination, y trouvait de quoi s'exercer. « Est-ce donc aimer, disait-elle, que de chercher à passer le temps ? Si vous n'aimez pas cette femme, mais qu'alliez-vous faire chez elle ? » Si vous l'aimiez, pourquoi l'abandonnez-vous? Elle souffre, elle pleure peut-être. Comment de misérables calculs d'argent peuvent-ils trouver place dans un noble cœur? Êtes-vous donc aussi froid, si esclave de vos intérêts, que mes parents l'ont été naguère lorsqu'ils ont fait le malheur de ma vie? Est-ce là le rôle d'un jeune homme? Et n'en devez-vous pas rougir? Mais non, vous ne savez pas vous-même si vous souffrez, ni ce que vous regrettez. La première venue vous consolerait. Votre esprit n'est que désœuvré, mais ce n'est pas ainsi qu'on aime. Je vous ai prédit à Besançon que vous sauriez un jour ce que c'est que l'amour, car si vous n'avez pas plus de courage, je vous prédis aujourd'hui que vous ne le saurez jamais. Frédéric revenait chez lui un soir après un entretien de ce genre. Surpris par la pluie, il entra dans un café où il but un verre de punch. Lorsqu'un long ennui nous a serré le cœur, il suffit d'une légère excitation pour le faire battre, et il semble alors qu'il y ait en nous un vase trop plein qui déborde. Quand Frédéric sortit du café, il doubla le pas. 2 mois de solitude et de privation lui pesaient. Il éprouvait un besoin invincible de secouer le joug de sa raison et de respirer plus à l'aise. Il prit, sans réflexion, le chemin de la maison de Bernerette. La pluie avait cessé. Il regarda, à la clarté de la lune, les fenêtres de son ami, la porte, la rue qui lui était si familière. Il posa en tremblant sa main sur la sonnette, et comme jadis, il se demanda s'il allait trouver dans la chambrette le feu couvert de cendres et le souper prêt. Et au moment de sonner, il hésita. « Mais quel mal y aurait-il, se dit-il à lui-même, quand je passerai là 1 heure et quand je demanderai à Bernerette un souvenir de l'ancien amour? Quel danger puis-je courir? Ne serons-nous pas libres tous deux demain? Puisque la nécessité nous sépare, pourquoi craindrais-je de la revoir un instant? » Il était minuit. Il sonna doucement et la porte s'ouvrit. Comme il monta l'escalier, la portière l'appela et lui dit qu'il n'y avait personne. C'était la première fois qu'il lui arrivait de ne pas trouver Bernerette chez elle. Il pensa qu'elle était allée au spectacle et répondit qu'il attendrait, mais la portière s'y opposa. Après avoir hésité longtemps, elle lui avoua enfin que Bernerette était sortie de bonne heure et qu'elle ne devait rentrer que le lendemain. À quoi sert de jouer l'indifférent quand on aime, sinon à souffrir cruellement le jour où la vérité l'emporte? Frédéric s'était juré tant de fois qu'il ne serait pas jaloux de Bernerette, il avait si souvent répété devant ses amis qu'il avait fini par le croire lui-même. Il regagna son logis à pied en sifflant une contredanse. « Voilà un autre amant, se dit-il, tant mieux pour elle. C'est ce que je souhaitais. Oh, désormais me voilà tranquille. » Mais à peine fut-il arrivé chez lui qu'il sentit d'une faiblesse mortelle. Il s'assit, posa son front dans ses mains comme pour y comprimer sa pensée. Après une lutte inutile, la nature fut la plus forte. Il se leva, le visage baigné de larmes, et il trouva quelque soulagement à s'avouer ce qu'il éprouvait. Une langueur extrême succéda à cette violente secousse. La solitude lui devint intolérable, et pendant plusieurs jours il passa son temps en visite, en course sans but. Tantôt il essayait de ressaisir l'insouciance qui l'avait affecté. Tantôt, il s'abandonnait à une colère aveugle, à des projets de vengeance. Le dégoût de la vie s'emparait de lui. Il se souvenait de la triste circonstance qui avait accompagné son amour naissant. Ce funeste exemple était devant ses yeux. « Mais je commence à le comprendre, disait-il à Gérard. M'étonne plus qu'on désire la mort en pareil cas. Ce n'est pas pour une femme qu'on se tue. C'est parce qu'il est inutile et impossible de vivre quand on souffre à ce point, quelle qu'en soit la cause. » Gérard connaissait trop bien son ami pour douter de son désespoir, et il aimait trop pour l'y abandonner. Il trouva moyen, par des protections puissantes dont il n'avait jamais usé pour lui-même, de faire attacher Frédéric à une ambassade. Il se présenta un matin chez lui avec un ordre de départ du ministre des Affaires étrangères. « Les voyages, lui dit-il, sont le meilleur, le seul remède contre le chagrin. Pour te décider à quitter Paris, je me suis fait solliciteur, et grâce à Dieu, j'ai réussi. Si tu as du courage, tu partiras sur le champ pour Berne, où le ministre t'envoie. » Frédéric n'hésita pas. Il remercia son ami et s'occupa aussitôt de mettre ses affaires en ordre. Il écrivit à son père pour lui apprendre ses nouveaux projets et lui demanda son autorisation. La réponse fut favorable. Au bout de 15 jours, les dettes étaient payées, rien ne s'opposait plus au départ de Frédéric et il alla chercher son passeport. Mademoiselle Darcy lui fit 1000 questions et il n'y voulait plus répondre. Tant qu'il n'avait pas vu clair dans son propre cœur, il s'était prêté par faiblesse à la curiosité de sa jeune confidente. Mais la souffrance était maintenant trop vraie pour qu'il consentît à en faire un jeu. Et en s'apercevant du danger de sa passion, il avait compris combien l'intérêt qu'y prenait Mademoiselle Darcy était frivole. Il fit donc ce que font tous les hommes en pareil cas. Pour aider lui-même à sa guérison, il prétendit qu'il était guéri, qu'une amourette avait pu l'étourdir, mais qu'il était d'un âge à penser à des choses plus sérieuses. Mademoiselle Darcy, comme on peut le croire, n'approuva pas de pareils sentiments. Elle ne voyait de sérieux en ce monde que l'amour, le reste lui semblait méprisable. Tels étaient du moins ses discours. Frédéric la laissa parler et convint de bonne grâce avec elle qu'il ne saurait jamais aimer. Son cœur lui disait assez le contraire et, en se donnant pour inconstant, il aurait voulu ne pas mentir. Moins il se sentait de courage, plus il se hâtait de partir. Il ne pouvait cependant se défendre d'une pensée qui l'obsédait. Quel était le nouvel amant de Bernerette? Que faisait-elle? Devait-il tenter de la revoir encore une fois? Gérard n'était pas de cet avis. Il avait bon principe de ne rien faire à demi. Du moment que Frédéric était décidé à s'éloigner, il lui conseillait de tout oublier. « Que veux-tu savoir? Lui disait-il. Ou Bernadette ne te dira rien, ou elle altérera la vérité. Puisqu'il est prouvé qu'un autre amour l'occupe, à quoi bon le lui faire avouer? Une femme n'est jamais sincère sur ce sujet avec un ancien amant, même lorsque tout rapprochement est impossible. Qu'espères-tu d'ailleurs? Elle ne t'aime plus. » C'était à dessein et pour rendre à son ami un peu de force que Gérard s'exprimait en termes aussi durs. Je laisse à ceux qui ont aimé à juger l'effet qu'ils pouvaient produire. Mais bien des gens ont aimé qui ne le savent pas. Les liens de ce monde, même les plus forts, se dénouent la plupart du temps. Quelques-uns seulement se brisent. Ceux dont l'absence, l'ennui, la satiété ont affaibli peu à peu les amours, ne peuvent se figurer ce qu'ils eussent éprouvé si un coup subit les avait frappés. Le cœur le plus froid saigne et s'ouvre à ce coup. Qui reste insensible n'est pas homme. De toutes les blessures que la mort nous fait ici-bas avant de nous abattre, c'est la plus profonde. Il faut avoir regardé avec des yeux pleins de larmes le sourire d'une maîtresse infidèle pour comprendre ces mots. Elle ne t'aime plus. Il faut avoir longtemps pleuré pour s'en souvenir. Oh, c'est une triste expérience. Si je voulais tenter d'en donner une idée à ceux qui l'ignorent, je leur dirais que je ne sais pas lequel est le plus cruel, de perdre tout à coup la femme qu'on aime par son inconstance ou par sa mort. Frédéric ne pouvait rien répondre aux sévères conseils de Gérard, mais un instinct plus fort que la raison luttait en lui contre ses conseils. Il prit une autre voie pour parvenir à son but. Sans se rendre compte de ce qu'il voulait, ni de ce qui en pourrait advenir, il chercha un moyen d'avoir à tout prix des nouvelles de son amie. Il portait une bague assez belle que Bernerette avait souvent regardée d'un œil d'envie. Malgré tout son amour pour elle, il n'avait jamais pu se décider à lui donner ce bijou qu'il tenait de son père. Il le remit à Gérard en lui disant qu'il appartenait à Bernerette et il le pria de se charger de lui remettre cette bague qu'elle avait, disait-il, oubliée chez lui. Gérard se chargea volontiers de la commission, mais il ne se pressait pas de s'en acquitter. Frédéric insista. Il fallut céder. Les deux amis sortirent un matin ensemble et, tandis que Gérard allait chez Bernerette, Frédéric l'attendit aux Tuileries. Il se mêla assez tristement à la foule des promeneurs. Ce n'était pas sans regret qu'il se séparait d'une relique de famille qui lui était chère. Et quel bien en espérait-il? Qu'apprendrait-il qui pût le consoler? Gérard allait voir Bernerette, et si quelques paroles, quelques larmes échappaient à celle-ci, ne croirait-il pas nécessaire de n'en rien témoigner? Frédéric regardait la grille du jardin et s'attendait à tout moment à voir revenir son ami d'un air indifférent. Qu'importe, il aurait vu Bernerette. Il était impossible qu'il n'eût rien à dire. Qui sait ce que le hasard peut faire? Il aurait peut-être appris bien des choses dans cette visite. Plus Gérard tardait à paraître et plus Frédéric espérait. Cependant, le ciel était sans nuages. Les arbres commençaient à se couvrir de verdure. Il y a un arbre aux Tuileries qu'on appelle l'arbre du 20 mars. C'est un marronnier qui, dit-on, était en fleurs le jour de la naissance du roi de Rome et qui, tous les ans, fleurit à la même époque. Frédéric s'était assis bien des fois sous cet arbre. Il y retourna par habitude en rêvant. Le marronnier était fidèle à sa poétique renommée. Ses branches répandaient les premiers parfums de l'année. Des femmes, des enfants, des jeunes gens allaient et venaient. La gaieté du printemps respirait sur tous les visages. Frédéric réfléchissait à l'avenir, à son voyage, au pays qu'il allait voir. Une inquiétude mêlée d'espérance l'agitait malgré lui. Tout ce qui l'entourait semblait l'appeler à une existence nouvelle. Il pensa à son père, dont il était l'orgueil et l'appui, dont il avait reçu depuis qu'il était au monde que des marques de tendresse. Peu à peu, des idées plus douces, plus saines, prirent le dessus dans son esprit. La multitude qui se croisait devant lui le fit songer à la variété, à l'inconstance des choses. N'est-ce pas en effet un spectacle étrange que celui de la foule, quand on réfléchit que chaque être a sa destinée? Y a-t-il rien qui doive vous donner une idée plus juste de ce que nous valons et de ce que nous sommes aux yeux de la Providence? Il faut vivre, pensa Frédéric. Il faut obéir au suprême guide. Il faut marcher, même quand on souffre, car nul ne sait où il va. Je suis libre et bien jeune encore. Il faut prendre courage et se résigner. Comme il était plongé dans ses pensées, Gérard parut et accourut vers lui. Il était pâle et très ému. « Oh, mon ami, lui dit-il, il faut y aller. Allez vite, ne perdons pas de temps. Mais où me mènes-tu ? Chez elle. Ben, je t'ai conseillé ce que j'ai cru juste, mais il y a telle occasion, le calcul est en défaut et la prudence hors de saison. Mais que se passe-t-il donc ? S'écria Frédéric. Oh, tu vas le savoir, allez, viens, courons. » Ils allèrent ensemble chez Bernerette. « Monte seul, dit Gérard, je reviens dans un instant. » Et il s'éloigna. Frédéric entra. La clé était à la porte, les volets étaient fermés. « Bernerette, dit-il, où êtes-vous ? » Point de réponse. Il s'avança dans les ténèbres et à la lueur d'un feu à demi éteint, il aperçut son ami assis à terre près de la cheminée. « Mais qu'avez-vous ? » demanda-t-il. « Qu'est-il arrivé ?» Même silence. Il s'approcha d'elle, lui prit la main. « Levez-vous, lui dit-il, mais que faites-vous là ? » Mais à peine avait-il prononcé ces mots qu'il recula d'horreur. La main qu'il tenait était glacée. Et un corps inanimé venait de rouler à ses pieds. Épouvanté, il appela au secours. Gérard entrait, suivi d'un médecin. On ouvrit la fenêtre, on porta Bernerette sur son lit. Le médecin l'examina, secoua la tête et donna des ordres. Les symptômes n'étaient pas douteux. La pauvre fille avait pris du poison. Mais quel poison ? Le médecin l'ignorait, cherchait en vain à le deviner. Il commença par saigner la malade. Frédéric la soutenait dans ses bras. Elle ouvrit les yeux, le reconnut et l'embrassa, puis elle retomba dans sa léthargie. Le soir, on lui fit prendre une tasse de café. Elle revint à elle comme si elle se fût éveillée d'un songe. On lui demanda alors quel était le poison dont elle s'était servie. Elle refusa d'abord de le dire, mais pressée par le médecin, elle l'avoua. Un flambeau de cuivre placé sur la cheminée portait les marques de plusieurs coups de lime. Elle avait eu recours à cet affreux moyen pour augmenter l'effet d'une faible dose d'opium. Le pharmacien auquel elle s'était adressée ayant refusé d'en donner davantage. Ce ne fut qu'au bout de 15 jours qu'elle fut entièrement hors de danger. Elle commença à se lever, à prendre quelque nourriture, mais sa santé était détruite et le médecin déclara qu'elle souffrirait toute sa vie. Frédéric ne l'avait pas quittée. Il ignorait encore le motif qui lui avait fait chercher la mort, et il s'étonnait que personne au monde ne s'inquiétât d'elle. Depuis 15 jours, en effet, il n'avait vu venir chez elle ni un parent ni un étranger. Se pouvait-il que son nouvel amant l'abandonnât dans une pareille circonstance ? Cet abandon était-il la cause du désespoir de Bernerette ? Ces deux suppositions paraissaient également incroyables à Frédéric, et son ami lui avait fait comprendre qu'elle ne s'expliquerait pas sur ce sujet. Il restait donc dans un doute cruel, troublé par une jalousie secrète, retenue par l'amour et par la pitié. Au milieu de ses douleurs, Bernerette lui témoignait la plus vive tendresse. Pleine de reconnaissance pour les soins qu'il lui prodiguait, elle était, près de lui, plus gaie que jamais, mais d'une gaieté mélancolique et, pour ainsi dire, voilée par la souffrance. Elle faisait tous ses efforts pour le distraire et pour lui persuader de ne pas la laisser seule. S'il s'éloignait, elle lui demandait à quelle heure il reviendrait. Elle voulait qu'il dînât à son chevet et s'endormir en lui tenant la main. Elle lui faisait pour le divertir mille contes sur sa vie passée, mais dès qu'il s'agissait du présent et de sa funeste action, elle restait muette. Aucune question, aucune prière de Frédéric n'obtenait de réponse. S'il insistait, elle devenait sombre et chagrine. Elle était un soir au lit, on venait de la saigner de nouveau, et il sortait encore un peu de sang de la blessure mal fermée. Elle regardait en souriant couler une larme de pourpre sur son bras aussi blanc que le marbre. « M'aimes-tu encore ?» dit-elle à Frédéric. « Est-ce que toutes ces horreurs ne te dégoûtent pas de moi ?»« Mais je t'aime, » répondit-il, « et rien ne nous séparera maintenant. »« Est-ce vrai ?» reprit-elle en l'embrassant. « Ne me trompez pas. Dites-moi si c'est un rêve. » « Mais non, ce n'est pas un rêve. Mais non, ma belle et chère maîtresse. » Vivons tranquilles, soyons heureux. Hélas, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, s'écria-t-elle avec angoisse. Puis elle ajouta à voix basse, et si nous ne pouvons pas, c'est à recommencer. Quoiqu'elle n'eût fait que murmurer ces dernières paroles, Frédéric les avait entendues et il en avait frissonné. Il les répéta le lendemain à Gérard. « Mon parti est pris, lui dit-il. Je ne sais pas ce que mon père en dira, mais je l'aime et, quoi qu'il arrive, je ne la laisserai pas mourir. » Il prit en effet un parti dangereux, mais le seul qui s'offrit à lui. Il écrivit à son père et lui confia l'histoire de ses amours. Il oublia dans sa lettre l'infidélité de Bernerette. Il ne parla que de sa beauté, de sa constance, de la douce opiniâtreté qu'elle avait mise à le revoir, enfin de l'horrible tentative qu'elle venait de faire sur elle-même. Le père de Frédéric, vieillard septuagénaire, aimait son fils unique plus que sa propre vie. Il accourut en toute hâte à Paris, accompagné de Mademoiselle Humbert, sa sœur, vieille demoiselle fort dévote. Malheureusement, ni le digne homme ni la bonne tante n'avaient pour vertu la discrétion, en sorte que, dès leur arrivée, toutes leurs connaissances surent que Frédéric était amoureux fou d'une grisette qui s'était empoisonnée pour lui. On ajouta bientôt qu'il voulait l'épouser. Les malveillants crièrent au scandale, au déshonneur de la famille. Sous prétexte de défendre la cause du jeune homme, Mademoiselle Darcy raconta tout ce qu'elle savait, avec les détails les plus romanesques. Bref, en voulant conjurer l'orage, Frédéric le vit fondre sur sa tête de tous côtés. Il eut d'abord à comparaître devant les parents et les amis rassemblés, et à y subir une sorte d'interrogatoire. Donc il fut traité en coupable. On lui témoignait au contraire toute l'indulgence possible. Mais il lui fallut mettre son cœur à nu et entendre discuter ses secrets les plus chers. Il est inutile de dire que l'on ne put rien décider. Monsieur Humbert voulut voir Bernerette. Il alla chez elle, lui parla longtemps, et lui fit mille questions qu'elle sut répondre avec une grâce et une naïveté qui touchèrent le vieillard. Il avait eu, comme tout le monde, ses amourettes de jeunesse. Il sortit de cet entretien fort troublé et fort inquiet. Il fit venir son fils et il lui dit qu'il était décidé à faire un petit sacrifice en faveur de Bernerette si elle promettait, quand elle serait rétablie, d'apprendre un métier. Frédéric transmit cette proposition à son amie. « Et toi, que feras-tu ? » lui dit-elle. « Comptes-tu rester ou partir ?» Il répondit qu'il resterait, mais ce n'était pas l'avis de sa famille. Sur ce point, M. Omer fut intraitable. Il représenta à son fils le danger, la honte, l'impossibilité d'une liaison pareille. Il lui fit sentir, en termes bienveillants et mesurés, qu'il se perdait de réputation, qu'il ruinait son avenir. Après l'avoir forcé de réfléchir, il employa l'irrésistible argument qui fait la toute-puissance paternelle. Il supplia son fils. Celui-ci promit ce qu'on voulut. Tant de secousses, tant d'intérêts divers l'avaient agité, qu'il ne savait plus à quoi se résoudre. Et voyant le malheur de tous côtés, il n'osait ni lutter ni choisir. Gérard lui-même, ordinairement ferme, cherchait vainement quelque moyen de salut et se voyait obligé de dire qu'il fallait laisser faire le destin. Deux événements inattendus changèrent tout à coup les choses. Frédéric était seul un soir dans sa chambre. Il vit entrer Bernerette. Elle était pâle, les cheveux en désordre. Une fièvre ardente faisait briller ses yeux d'un éclat effrayant. Contre l'ordinaire, sa parole était brève, impérieuse. Elle venait, disait-elle, sommer Frédéric de s'expliquer. « Voulez-vous me tuer ? » lui demanda-t-elle. « M'aimez-vous ou ne m'aimez-vous pas ? Êtes-vous un enfant ? Avez-vous besoin des autres pour agir ? Êtes-vous fou de consulter votre père pour savoir s'il faut garder votre maîtresse ? Mais qu'est-ce que ces gens-là désirent ? Nous séparer ? Si vous le voulez, comme eux, vous n'avez qu'à faire le de ravi, et si vous ne le voulez pas, encore moins. Voulez-vous partir, emmenez-moi. Je n'apprendrai jamais un métier. Je ne veux pas rentrer au théâtre. Comment le pourrais-je, faite comme je suis? Je souffre trop pour attendre. Décidez-vous. » Elle parla sur ce ton pendant près d'une heure, interrompant Frédéric dès qu'il voulait répondre. Il tenta en vain de l'apaiser. Une exaltation si violente ne pouvait céder à aucun raisonnement. Enfin, épuisée de fatigue, Bernerette fondit en larmes. Le jeune homme la serra dans ses bras. Il ne pouvait résister à tant d'amour. Il porta sa maîtresse sur son lit. « Reste là, lui dit-il, que le ciel m'écrase si je t'en laisse arracher. Je ne veux plus rien entendre, rien voir, si ce n'est toi. Tu me reproches ma lâcheté, et tu as raison. Mais j'agirai, tu le verras. Si mon père me repousse, tu me suivras. Puisque Dieu m'a fait pauvre, nous vivrons pauvrement. Je me soucie ni de mon nom, ni de ma famille, ni de l'avenir. » Ces mots, prononcés avec toute l'ardeur de la conviction, consolèrent Bernerette. Elle pria son amie de la reconduire chez elle à pied. Malgré sa lassitude, elle voulait prendre l'air. Ils convinrent pendant la route du plan qu'ils allaient suivre. Frédéric feindrait de se soumettre au désir de son père, mais il lui représenterait qu'avec peu de fortune, il n'est pas possible de se hasarder dans la carrière diplomatique. Il demanderait donc à achever son stage. M. Robert céderait vraisemblablement à la condition que son fils oublierait ses folles amours. Bernerette, de son côté, changerait de quartier, on la croirait partie. Elle louerait une petite chambre dans la rue de la Harpe ou aux environs. Là, elle vivrait avec tant d'économie que la pension de Frédéric suffirait pour tous deux. Dès que son père serait retourné à Besançon, il viendrait la rejoindre et demeurer avec elle. Pour le reste, Dieu y pourvoirait. Tel fut le projet auquel les pauvres amants s'arrêtèrent et dont ils eurent le succès infaillible, comme il arrive toujours en pareil cas. Deux jours après, Frédéric, après une nuit sans sommeil, se rendit chez son ami dès 6 heures du matin. Un entretien qu'il avait eu avec son père le troublait. On exigeait qu'il partît pour Berne. Il venait embrasser Bernerette pour retrouver près d'elle son courage affaibli. La chambre était déserte, le lit était vide. Il questionna la portière et apprit, à n'en pouvoir douter, qu'il avait un rival et qu'on le trompait. Il sentit cette fois moins de douleur que d'indignation. La trahison était trop forte pour que le mépris ne vînt pas prendre la place de l'amour. Rentré chez lui, il écrivit une longue lettre à Bernerette pour la calmer des reproches les plus amers. Mais il déchira cette lettre au moment de l'envoyer. Une si misérable créature ne lui parut pas digne de sa colère. Il résolut de partir le plus tôt possible. Une place était vacante pour le lendemain à la malle-poste de Strasbourg. Il la retint et courut prévenir son père. Toute la famille le félicita. On ne lui demanda pas, bien entendu, par quel hasard il obéissait si vite. Gérard seul sut la vérité. Mademoiselle Darcy déclara que c'était une pitié et que les hommes manqueraient toujours de cœur. Mademoiselle Aubert augmenta de ses épargnes la petite somme qu'emportait son neveu. Un dîner d'adieu réunit toute la famille et Frédéric partit pour la Suisse. Les plaisirs et les fatigues du voyage, l'attrait du changement, les occupations de sa nouvelle carrière rendirent bientôt le calme à son esprit. Il ne pensait plus qu'avec horreur à la fatale passion qui avait failli le perdre. Il trouva à l'ambassade l'accueil le plus gracieux. Il était bien recommandé. Sa figure prévenait en sa faveur. Une modestie naturelle donnait plus de prix à ses talents, sans leur ôter le relief. Il occupa bientôt dans le monde une place honorable, et le plus riant avenir s'ouvrit devant lui. Bernerette lui écrivit plusieurs fois. Elle lui demandait gaiement s'il était parti pour tout de bon et s'il comptait bientôt revenir. Il s'abstint d'abord de répondre. Mais, comme les lettres continuaient et devenaient de plus en plus pressantes, il perdit enfin patience. Il répondit et déchargea son cœur. Il demanda à Bernerette, dans les termes les plus amers, si elle avait oublié sa double trahison, et il la pria de lui épargner à l'avenir de feintes protestations dont il ne pouvait plus être la dupe. Il ajouta que du reste il bénissait la Providence de l'avoir éclairée à temps, que sa résolution était irrévocable et qu'il ne verrait probablement la France qu'après un long séjour à l'étranger. Cette lettre partie, il se sentit plus à l'aise et entièrement délivré du passé. Bernerette cessa de lui écrire depuis ce moment, et il n'entendit plus parler d'elle. Une famille anglaise assez riche habitait une jolie maison aux environs de Berne. Frédéric y fut présenté. 3 jeunes personnes, dont la plus âgée n'avait que 20 ans, faisaient les honneurs de la maison. L'aînée était d'une beauté remarquable. Elle s'aperçut bientôt de la vive impression qu'elle produisait sur le jeune attaché et ne s'y montra pas insensible. Il n'était pourtant pas encore assez bien guéri pour se livrer à un nouvel amour. Mais après tant d'agitation et de chagrin, il éprouvait le besoin d'ouvrir son cœur à un sentiment calme et pur. La belle Fanny ne devint pas sa confidente, comme l'avait été Mademoiselle Darcy. Mais, sans qu'il lui fît le récit de ses peines, elle devina qu'il venait de souffrir. Et comme le regard de ses yeux bleus semblait consoler Frédéric, elle les tournait souvent de son côté. La bienveillance mène à la sympathie et la sympathie à l'amour. Au bout de 3 mois, l'amour n'était pas venu, mais il était bien près de venir. Un homme d'un caractère aussi tendre et aussi expansif que Frédéric ne pouvait être constant qu'à la condition d'être confiant. Gérard avait eu raison de lui dire autrefois qu'il aimerait Bernerette plus longtemps qu'il ne le croyait. Mais il eût fallu pour cela que Bernerette l'aimât aussi, du moins en apparence. En révoltant les cœurs faibles, on met leur existence en question. Il faut qu'ils se brisent ou qu'ils oublient, car ils n'ont pas la force d'être fidèles à un souvenir dont ils souffrent. Frédéric s'habitua donc de jour en jour à ne plus vivre que pour Fanny. Il fut bientôt question de mariage. Le jeune homme n'avait pas grande fortune, mais sa position était faite, ses protections puissantes. L'amour qui lève tout obstacle plaidait pour lui. Il fut décidé qu'on demanderait une faveur à la cour de France et que Frédéric, nommé second secrétaire, deviendrait l'époux de Fanny. Cet heureux jour arriva enfin. Les nouveaux mariés venaient de se lever et Frédéric, dans l'ivresse du bonheur, tenait sa femme entre ses bras. Il était assis près de la cheminée. Un pétillement du feu et un jet de flamme le firent tressaillir. Par un bizarre effet de la mémoire, il se souvint tout à coup du jour où, pour la première fois, il s'était trouvé ainsi avec Bernerette près de la cheminée d'une petite chambre. Je laisse à commenter ce hasard étrange à ceux dont l'imagination se plaît à admettre que l'homme pressent la destinée. Ce fut en ce moment qu'on remit à Frédéric une lettre timbrée de Paris qui lui annonçait la mort de Bernerette. Je n'ai pas besoin de peindre son étonnement et sa douleur. Je dois me contenter de mettre sous les yeux du lecteur l'adieu de la pauvre fille à son ami. On y trouvera l'explication de sa conduite en quelques lignes, écrite de ce style à moitié gai et à moitié triste, qui lui était particulier. Hélas, Frédéric, vous saviez bien que c'était un rêve. Nous ne pouvions pas vivre tranquillement et être heureux. J'ai voulu m'en aller d'ici. J'ai reçu la visite d'un jeune homme dont j'avais fait la connaissance en province du temps de ma gloire. Il était fou de moi à Bordeaux. Je ne sais où il avait appris mon adresse. Il est venu et s'est jeté à mes pieds comme si j'étais encore une reine de théâtre. Il m'offrait sa fortune, oh, qui n'est pas grand-chose, et son cœur, qui n'est rien du tout. C'était le lendemain, ami, souviens-toi. Tu m'avais quitté en me répétant que tu partais. Oh, j'étais pas trop gai, mon cher. Je ne savais pas trop où aller dîner. Je me suis laissé emmener. Malheureusement, je n'ai pas pu y tenir. J'avais fait porter mes pantoufles chez lui. Je les ai envoyées redemander. Je me suis décidé à mourir. Oui, mon pauvre bon, j'ai voulu te laisser là. Je ne pourrais pas vivre en apprentissage. Cependant, la seconde fois, j'étais décidé. Mais ton père est revenu chez moi. Voilà ce que tu n'as pas su. Que voulais-tu que je lui dise? J'ai promis de t'oublier. Je suis retourné chez mon adorateur. Oh, que je me suis ennuyé. Est-ce ma faute si tous les hommes me semblent laids et bêtes depuis que je t'aime? Je ne peux pourtant pas vivre de l'air du temps. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je ne me tue pas, mon ami, je m'achève. Ce n'est pas un grand meurtre que je fais. Ma santé est déplorable, à jamais perdue. Tout cela ne serait rien sans l'ennui. On dit que tu te maries. Est-elle belle? Adieu, adieu. Souviens-toi, quand il fera beau temps, du jour où tu as arrosé tes fleurs. Ah, comme je t'ai aimé vite. En te voyant, c'était un soubresaut en moi, une pâleur qui me prenait. J'étais bien heureuse avec toi. Adieu. Si ton père l'avait voulu, nous ne serions jamais quittés. Mais tu n'avais point d'argent. Voilà le malheur, et moi non plus. Quand j'aurais été chez une lingère, je n'y serais pas resté. Ainsi, que veux-tu? Voilà maintenant deux essais que je fais de recommencer. Rien ne me réussit. Je t'assure que ce n'est pas par folie que je veux mourir. J'ai toute ma raison. Mes parents, oh, que Dieu leur pardonne, sont encore revenus. Si tu savais ce qu'on veut faire de moi, c'est trop dégoûtant d'être un jouet de misère et de se voir tirailler ainsi. Quand nous nous sommes aimés autrefois, si nous avions eu plus d'économies, cela aurait mieux été. Mais tu voulais aller au spectacle et nous amuser. Nous avons passé de bonnes soirées à la chaumière. Adieu, mon cher. Pour la dernière fois, adieu. Si je me portais mieux, je serais rentré au théâtre. Mais je n'ai plus que le souffle. Ne te fais jamais reproche de ma mort. Je sens bien que si tu avais pu, rien de tout cela ne serait arrivé. Je le sentais, moi, et je n'osais pas le dire. J'ai vu tout se préparer, mais je ne voulais pas te tourmenter. C'est par une nuit triste que je t'écris. Plus triste, sois-en sûr, que celle où tu es venu sonner et où tu m'as trouvé sorti. Je ne t'avais jamais cru jaloux. Mais quand j'ai su que tu étais en colère, cela m'a fait peine et plaisir. Mais pourquoi n'as-tu pas attendu d'autorité? Tu aurais vu la mine que j'avais en rentrant de ma bonne fortune. Mais c'est égal, tu m'aimais plus que tu ne le disais. Je voudrais finir et je ne peux pas. Je m'attache à ce papier comme un reste de vie. Je serre mes lignes, je voudrais rassembler tout ce que j'ai de force et te l'envoyer. Non, tu n'as pas connu mon cœur. Tu m'as aimé parce que tu es bon. C'était par pitié que tu venais, et aussi un peu pour ton plaisir. Si j'avais été riche, tu ne m'aurais pas quitté. Voilà ce que je me dis. C'est la seule chose qui me donne du courage. Adieu. Puisse mon père ne pas se repentir du mal dont il a été cause. Maintenant, je le sens. Que ne donnerais-je pas pour savoir quelque chose, pour avoir un gagne-pain dans les mains? Il est trop tard. Si, quand on est enfant, on pouvait voir sa vie dans un miroir, je ne finirais pas ainsi. Tu m'aimerais encore. Mais peut-être que non, puisque tu vas te marier. Mais comment as-tu pu m'écrire une lettre aussi dure? Puisque ton père l'exigeait, et puisque tu allais partir, je ne croyais pas mal faire en essayant de prendre un autre amant. Jamais je n'ai rien éprouvé de pareil, et jamais je n'ai rien vu de si drôle que sa figure quand je lui ai déclaré que je retournais chez moi. Ta lettre m'a désolé. Je suis resté au coin de mon feu pendant 2 jours, sans pouvoir dire un mot ni bouger. Oh, je suis née bien malheureuse, mon ami. Tu ne saurais croire comme le bon Dieu m'a traitée depuis une pauvre vingtaine d'années que j'existe. C'est comme une gageure. Enfant, on me battait, et quand je pleurais, on m'envoyait dehors. « Va voir s'il pleut !» disait mon père. Quand j'avais 12 ans, on me faisait raboter des planches, et quand je suis devenue femme, ma toi s'est persécutée. Ma vie s'est passée à tâcher de vivre, et finalement, à voir qu'il faut mourir. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as donné mes seuls jours heureux. J'ai respiré là une bonne bouffée d'air, que Dieu te la rende. Puisses-tu être heureux, libre, ô ami, puisses-tu être aimé comme t'aime ta mourante, ta pauvre Bernerette. Ne t'afflige pas, tout va être fini. Te souviens-tu d'une tragédie allemande que tu me lisais un soir chez nous? Le héros de la pièce demande « Qu'est-ce que nous crierons, mourant ?»« Liberté !» répond le petit Georges. « Oh, tu as pleuré en lisant ce mot-là. »« Pleure donc, c'est le dernier cri de ton ami. »« Les pauvres meurent sans testament. »« Je t'envoie pourtant une boucle de mes cheveux. » Un jour que le coiffeur me les avait brûlés avec son fer, je me rappelle que tu voulais le battre. Puisque tu ne voulais pas qu'on brûlât mes cheveux, tu ne jetteras pas au feu cette boucle. Adieu, adieu encore, pour jamais. Ta fidèle amie, Bernerette. On m'a dit qu'après avoir lu cette lettre, Frédéric avait fait sur lui-même une funeste tentative. Je n'en parlerai pas ici. Les indifférents trouvent trop souvent du ridicule à des actes semblables lorsqu'on y survit. Les jugements du monde sont tristes sur ce point. On rit de celui qui essaie de mourir et celui qui meurt est oubliée.